France Culture.
De ce repas à la française concurrencé par de nouvelles pratiques culinaires, appartient-il au passé ou peut-on continuer de le faire vivre au restaurant et à la maison? Deux invités de taille, de réputation sont avec nous. Guy Savoie, bonjour monsieur.
Bonjour.
Chef 3 étoiles au guide Michelin, dont le restaurant à la Monnaie de Paris est sacré pour la 8e année consécutive meilleur restaurant du monde par le classement de la liste. Vous êtes également auteur culinaire. Vous avez fait paraître, par exemple, en octobre 2025, le 4e volume d'une collection dans laquelle vous vous employez à cuisiner les écrivains. Là, c'est le 19e siècle qu'il est à l'honneur. Et comme ça ne suffisait pas, Guy Savoie, vous voilà depuis peu académicien, puisque vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts le 13 novembre 2024, et on y reviendra. En face de vous se trouve Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Bien connu des auditeurs et des auditrices de France Culture, historien et membre également de l'Académie française, fin connaisseur de l'histoire de notre gastronomie et de sa culture, auteur de très nombreux ouvrages, Pascal Horry, sur la question, je n'en cite que deux, le discours gastronomique français des origines à nos jours, chez Gallimard en 98, et plus récemment, l'identité passe à table, l'avenir gastronomique de l'humanité en général et de la France en particulier, c'était en 2013 aux éditions PUF. Vous avez tous les deux œuvrer à ce que le repas des Français, le repas gastronomique des Français, entre à l'UNESCO. Pourquoi c'était important, Pascal Horry?
D'abord, parce qu'on disposait désormais d'un instrument, depuis 2003, la notion de patrimoine immatériel. Alors que l'UNESCO, qui suivait d'ailleurs une institution d'avant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on oublie souvent à l'époque de la Société des Nations, l'UNESCO, quand elle parlait de patrimoine, elle en parlait beaucoup, elle œuvrait à la sauvegarde, on pense dans les années 50-60, les temples égyptiens de Nubie, etc. C'était matériel, c'était souvent architectural, et au fond, si cette notion de patrimoine immatériel a surgi, c'est qu'elle était portée d'une part par les pays, en fait les États, parce que l'UNESCO, ce sont des États, on dit peuple ou pays, de l'Afrique subsaharienne, en priorité, qui disait, vous êtes bien gentil, mais des cathédrales gothiques, on n'en a pas beaucoup, mais en revanche, on a des rituels, on a des savoir-faire, etc. Et puis, deuxièmement, le précédent japonais. Les Japonais, au milieu des années 70, donc c'est à la fois proche et lointain, avaient inventé la notion de trésor national vivant. Ce qui fait qu'actuellement, au Japon, de temps à autre, des maîtres experts dans une technique de porcelaine ou de textile sont proclamés par la diète, c'est pas la diète diététique, c'est en fait l'Assemblée nationale, le Parlement japonais, trésor national vivant. Ça veut dire qu'ils ont une pension et en même temps, ils doivent restituer en quelque sorte au Japon les secrets de fabrication, etc.
Ça, c'est pour le contexte général. Maintenant, oui. Le repas des Français.
Alors, le repas, ça voulait...
Le repas gastronomique, chaque mot est important.
Alors, ça, à vrai dire, bon, j'ai fait partie de cette équipe, il faut quand même citer le nom, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation.
À Tours.
De l'équipe qui a élaboré le discours qui pouvait convaincre l'UNESCO. Et ce qui était essentiel, parce que ça, c'est la philosophie de l'UNESCO, donc il faut bien insister là-dessus, y compris en présence de Guy Savoie, c'est qu'il ne fallait surtout pas, par exemple, prononcer le nom « restaurant ». C'est contre-intuitif. Mais parce que le restaurant, c'était l'irruption du commerce, dans la perspective, de l'UNESCO, il fallait être anthropologique. Donc il est évident qu'on aurait pu dire, après tout, la France a inventé, ce qui est vrai, au XVIIIe siècle, le restaurant.
Vous ne répondez pas à ma question, question, c'est pourquoi c'était important de reconnaître ce repas.
C'est parce que j'essaye d'expliquer pourquoi ce n'est pas la formule le restaurant ou le chef artiste, de façon Antonin Carême. Ça, nous les avons inventés. Pourquoi c'est cette dimension anthropologique qui a été privilégiée? Ce qui veut dire qu'au moment où on nous écoute là, en direct et même en différé, les auditeurs, les auditrices ne se rendent pas compte qu'ils sont classés régulièrement, eux-mêmes, quand ils font, pour simplifier, une belle bouffe, une grande bouffe, une superbe bouffe, entre amis. Ça, ça change quand même la perspective.
Il répond déjà à la deuxième question que vous voulez poser, c'est qu'est-ce qui a été classé? Alors, répondez peut-être
deux questions en même temps. Alors, ce qui était important, d'ailleurs, dans cette inscription, c'est important que la France soit la première qui est en matière de cuisine. En France, on dit plutôt gastronomie. La cuisine, c'est réservé aux autres pays. Nous, on a la chance. Pourquoi on est le pays de la gastronomie? Parce que on a nulle part ailleurs, il y a une telle diversité de produits et dans cette qualité de produits. Et cette qualité et cette diversité de produits a fait naître tous les savoir-faire. La boulangerie, la pâtisserie, la confiserie, la fromagerie, les vins, enfin tout ça, c'est la singularité de la France. Et moi, dans tous ces savoir-faire, tous ces savoir-faire, pour moi, sont la définition même de la gastronomie. Après, tous les autres pays ont une cuisine, et c'était important que ce soit nous qui avions la, en matière d'immatériel, la culture la plus complexe, la plus diverse. C'était normal qu'on soit inscrits les premiers. Et depuis, il y a 50 habitudes alimentaires qui ont été classées. Ce qui prouve bien la richesse des cuisines tout autour de la planète. Je dis d'ailleurs, on a, à travers cette prise de conscience, à travers toutes ces inscriptions, moi je dis qu'il s'est passé plus de choses autour de la planète pour les choses culinaires que les 2000 ans qui ont précédé.
C'est intéressant ce que vous dites, Guy Savoie, parce qu'il y a deux mots que vous avez utilisés, la diversité et la gastronomie, qui me font penser qu'il y a peut-être déjà un flou sur ce qui a été classé. Ça n'est pas la diversité qui a été classée, c'est le repas gastronomique des Français. Et ça n'est pas non plus la gastronomie qui a été... Donc, est-ce que dès le départ, il n'y a pas eu une sorte de flou ?
Non, mais n'importe quoi. Bon, s'il n'y avait pas justement... ce socle incroyable qui a été mis en place, en fait, je dirais même notre ADN, le repas gastronomique des Français ne serait pas né. Donc il faut bien aller à la genèse. Hein,
Cette diversité des terroirs, et cette richesse.
C'est le socle. Et moi je trouve ça formidable, et d'ailleurs pour tout ce qui a été classé, ça veut dire que ce socle de tradition, en fait, permet de construire l'innovation. Et c'est ce qu'ont compris les gens d'UNESCO, et Pascal Horry l'a très bien expliqué.
Pascal Horry, c'est pas la haute gastronomie qui a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010, c'est tous les Français qui ont été inscrits à l'UNESCO, c'est ça ?
Mais pour répondre à votre question, Caroline, il faut être d'accord sur la définition du mot gastronomie, qui est souvent ambigu, voire équivoque. La gastronomie, pour moi, c'est très simple, c'est la culture du manger et du boire. C'est-à-dire qu'on prend au sérieux ce qui se passe à table. Et la France, c'est pas du tout un cocorico, c'est l'historien qui vous parle. La France a fondé cette gastronomie comme par hasard au 18e et au 19e siècle, donc à l'entrée dans les fameux temps modernes, prise au sérieux. D'une certaine façon, il y a assez peu d'autres pays qui réunissaient au moment où on se lance là-dedans, donc il y a déjà deux siècles, trois siècles, les mêmes caractéristiques. On pourrait se rapprocher de la Chine sur ce plan-là. C'est-à-dire que nous avons une tradition, alors là pour le coup, ce que vous appelez haute gastronomie, je dirais plutôt haute cuisine, liée à des pratiques curiales, une cour sophistiquée, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ça se diffuse dans la société. Et comme par hasard, la critique gastronomique, la théorie gastronomique, c'est-à-dire Grimaud de la Reynière, Bria Savarin et Tutti Quanti, ou le chef artiste, très important, le chef qui dit Léonard de Vinci, etc., ça se passe en France à la veille de la Révolution française, comme par hasard. D'où la popularité, au bout de deux ou trois générations, de cette culture-là.
Il y a une historienne, spécialiste des cultures alimentaires et de l'histoire culturelle du monde contemporain, qui faisait partie du comité scientifique de cette candidature, Julia Zergo, qui, quelques années après avoir œuvré pour cette inscription du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, a écrit un ouvrage, « La gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme une autre ?» dans lequel elle alertait sur une forme de confiscation par l'industrie du luxe, d'une culture du bien-manger qui appartiendrait à tous. Est-ce que vous diriez, si on avance un peu dans le temps, que c'était l'objectif de reconnaître que c'est symbolique et c'est très fort de reconnaître le repas gastronomique des Français, mais que malgré tout, on a inscrit à l'UNESCO quelque chose qui appartient à tout le monde, mais qu'on le lui a confisqué.
Non, mais pas du tout. Même pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, là, bon, à l'heure, il est l'heure du déjeuner, il y a des millions de foyers en France qui sont des lieux consacrés au repas gastronomique des Français et qui célèbrent inconsciemment cette inscription. Mais ça existe depuis très longtemps, je veux dire, tout ça c'est construit au fil du temps. Alors après, des événements ont fait que la représentation ou les travaux pratiques de la cuisine se sont après la Révolution, sont nés les restaurants, tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, Pascal l'a très bien dit, c'est que tous les foyers français vivent cette inscription au quotidien, et j'ai envie de dire plutôt le dimanche, parce que c'est là où on se réunit et c'est là où on célèbre vraiment, parce que on va traîner un peu à l'apéritif après une entrée, le plat, enfin tout ce qui fait la singularité de notre culture alimentaire.
Vraiment, Pascal Horry, encore aujourd'hui,
mais ça me paraît clair en tout cas que dans le regard des étrangers, qui peuvent ironiser, mais c'est une reconnaissance, et qui parfois sont simplement conquis. Hein. Le nombre d'Anglais, d'Américains qui sont
voire grands envieux. Amateurs.
Non, mais c'est très bien. Donc, le regard porté sur la France, c'est justement une société qui se préoccupe de ça. Et on va simplifier, mais c'est pour aller vite à l'essentiel, une société de culture catholique, de structure monarchique, ça produit une sophistication culinaire, mais aussi gastronomique, puisque je rappelle, c'est pas la même chose, qui nous distingue de pays qui ont une autre histoire. Par exemple, l'Italie a évidemment un patrimoine culinaire considérable, mais la dimension unitaire, elle ne l'a connue que récemment. Donc, on vous avait affaire à une cuisine qui est très régionalisée au départ. En France, il y a une circulation, effectivement, puisqu'on parlait de diversité. Continuons sur la diversité. Elle commence avec les provinces de France. Un des premiers restaurants s'appelle les Frères Provençaux, etc. Donc, ça commence vraiment dès le début, quand se structure le restaurant. Mais incontestablement, c'est le regard de l'étranger qui nous confirme dans l'idée que nous avons un rapport privilégié à ce moment essentiel.
Et c'est en cela, sans doute, que cette histoire a aussi partie liée, vous y travaillez ardemment, cher Pascal Horry, avec notre identité nationale. Et c'est ce qui montre aussi cette inscription du repas des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est toujours très très long à dire. Ce qui montre aussi que la cuisine, c'est une culture. Dans les réserves et dans les réticences, dans les résistances qui ont pu se faire montre depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis même précisément 15 ans. Il en est une que vous avez commencé d'exprimer, cher Pascal Horry, et que reprend aujourd'hui une journaliste et autrice de l'ouvrage que j'ai à côté de moi avec les vôtres, Guy Savoy et Pascal Horry, qui s'intitule « Passer à table, ce que l'acte de manger dit de nous ». Émilie Listari est avec nous en ligne, bonjour à vous.
Bonjour Caroline Brouet, bonjour
Votre livre, Émilie Listari, ouvre sur un chapitre intitulé précisément « Une arrogance à la française ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, alors je pense qu'une grande partie des auditeurs et auditrices ont sûrement déjà fait l'expérience. Lorsqu'on vient de France et qu'on voyage ailleurs dans le monde, il y a une réputation qui nous précède. C'est celle d'être lié donc à ce pays dont la gastronomie, elle tient lieu donc de référence, de référentiel. On va nous dire « Ah oui, on mange tellement bien en France, vous avez une cuisine incroyable, riche et subtile à la fois ». Et en fait, individuellement, ce qu'on fait à ce moment-là, il me semble, c'est que c'est l'expérience du « soft power » de la France par l'assiette, donc de son aura culinaire. Parce que la gastronomie française a aujourd'hui une valeur totem, donc c'est l'expression que j'emprunte ici à Roland Barthes, qui l'utilise à propos du vin, pour dire que c'est un totem ressenti par la nation française comme un bien qui lui est propre. Donc autrement dit, la gastronomie française fait partie de notre identité nationale, comme vos invités ont pu le dire juste avant. Et tout ça, me semble-t-il, est une idée plutôt douce et agréable, de savoir que notre gastronomie, c'est l'une des meilleures au monde. Mais je nous invite justement dans le chapitre 1 de cet essai que vous venez de citer, je nous invite à ne pas nous contenter des idées qui sont douces et agréables.
C'est-à-dire vous allez beaucoup plus loin puisque vous dites qu'on a inventé la tradition, vous parlez même de gastronationalisme pour mettre en avant des traditions qui donneraient une identité à une localité, une région, une nation, mais dans un sens qui n'est pas que doux justement. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez nous inviter à réfléchir, Émilie Listari, sur ces sujets ?
Voilà, en fait, je nous invite collectivement à réfléchir, à faire quelques petits détours par l'histoire pour le faire, faire une photographie des atouts géopolitiques et économiques qui ont été les nôtres. Parce que, en fait, pour justifier de la grandeur de notre gastronomie nationale, on met souvent une chose en avant qui est celle de, c'est un mot qui est très joli et très doux aussi, nos terroirs. Et le terroir ici, ça va être un argument paysager finalement, qui permet de mobiliser différentes caractéristiques, donc la beauté de nos régions, leur grande diversité qui est propre à notre pays, les traditions, les savoir-faire qui y sont nés, la production agricole, la météo, les biotopes, tout ça. Et j'en arrive à mon point. La diversité des terroirs et des savoir-faire, elle ne peut pas, à mon sens, tout expliquer à l'hégémonie de la gastronomie française aujourd'hui. Il faudrait en fait revenir sur les contextes géopolitiques et économiques qui ont pavé la voie à cette gastronomie française, à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça passe par deux éléments, le rappel de deux éléments cruciaux, me semble-t-il. D'abord, le fait que la France a été un empire colonial qui a pu profiter d'ingrédients venus des quatre coins de la planète. Et en plus de ça, il y a eu une volonté politique de franciser ces ingrédients, donc c'est-à-dire de faire en sorte de les incorporer à notre logiciel culinaire national.
Merci Émilie Lahistari. Ce passer à table, ce que l'acte de manger dit de nous, ça n'est que le premier chapitre d'une réflexion qui va très loin et qui est très riche, et peut-être nous en reparlerons un peu plus longuement dans cette émission. La gastronomie comme objet politique, au fond, Pascal Horry, ça c'est un sujet pour vous.
Oui, mais d'emblée, de toute façon, les gens que j'ai cités tout à l'heure sont des contemporains d'un certain Talleyrand qui se retrouvent à défendre, adosser vraiment l'héritage de Napoléon Bonaparte, dont il ne reste plus rien après, c'est avant Waterloo, c'est le congrès de Vienne, et qui, quand le roi lui dit qu'il va lui envoyer quelques consignes diplomatiques, répond au roi, c'est la légende, mais je crois que c'était vraiment ce que pensait Talleyrand, mais Votre Altesse, je n'ai pas besoin de consignes, j'ai besoin de casseroles. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, même s'il y a une part de mythe, hein, mais ça a été vérifié quand même par des spécialistes de l'histoire diplomatique, justement, puisqu'on parle de soft power, à ce congrès, effectivement, une des stratégies françaises, c'était de mettre en valeur sa supériorité, ou supposait-elle, gastronomique. Mais attendez, l'arrogance, elle est évidemment repérable dans les textes fondateurs, chez Grimaud de la Reynière, chez Brillat-Savarin, etc. Arrogance en ce sens qu'ils sont persuadés que, effectivement, c'est la meilleure cuisine du monde. Mais on en est loin aujourd'hui, parce que justement, l'empire colonial. Parlons de l'empire colonial. C'est ça qui permet justement de faire converger. Alors, c'est vrai, souvent vers Paris. Oui, moi je faisais toujours un parallèle entre la diversité des restaurants, justement issus de la diversité coloniale, mais pas que coloniale, étrangers. Nous avons à Paris des restaurants de cuisine éthiopienne et même érythréenne. C'est pas lié à l'empire colonial français. C'est que, tout simplement, l'importance symbolique, vous l'avez dit, accordée à ces enjeux, fait que. Bon, regardez les restaurateurs japonais. Ils sont conscients qu'en venant dans ce pays, ben, ils sont mis en valeur et qu'on leur demande de monter encore la gamme. C'est pas simplement de la domination coloniale. C'est plus compliqué que ça.
Mais au moins, ça donne à réfléchir. Il est 12h18 sur France Culture. Vous écoutez les bonnes choses.
Quand il s'est porté candidat il y a 2 ans, Guy Savoie n'osait pas imaginer pouvoir siéger sous la coupole. Lui, fils d'une cuisinière et d'un jardinier de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Que de chemin parcouru depuis cette enfance heureuse, l'apprentissage chez Trois Gros, la première étoile Michelin rue Duret à Paris, puis la fulgurante ascension jusqu'à la troisième étoile Michelin rue Troyon, avec aussi les 5 tocs Goemio et l'installation Quai de Conti à la Monnaie de Paris, où il vient d'être sacré pour la 8e année consécutive meilleur restaurant du monde.
C'était sur France Info le 23 décembre 2024, parce que Guy Savoie, vous êtes un peu notre patrimoine à vous tout seul. D'une certaine façon, premier chef cuisinier à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Est-ce que ça, c'est pas le prolongement de cette inscription du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, c'est-à-dire reconnaître au fond, dans les 2 cas, que la cuisine, d'abord, c'est un peu de l'art, ou peut-être pour le dire autrement, que la cuisine, c'est de la culture.
Mais bien sûr, enfin, que c'est de l'art, d'accord. Bon, à partir du moment où les artistes en ont décidé ainsi, en m'élisant, moi, ça me... Je veux dire, je n'ai plus besoin de prononcer le mot, j'ai plus besoin d'être arrogant, mais moi, quand on parle d'arrogance pour la France, pour la cuisine, ça me dérange un peu, parce que dans un monde de plus en plus virtuel, qu'est-ce qu'il y a de plus concret que la cuisine? On peut pas raconter n'importe quoi avec la cuisine. Le discours est dans l'assiette. Et vous avez la capacité de déguster, d'ingérer, donc de déguster. Donc on peut pas raconter n'importe quoi. Je veux dire, à partir du moment où c'est concret, et tellement instantané. Il n'y a pas de trucage en cuisine. J'ai dit ça devant Maury. Non, il n'est pas question d'arrogance. On montre simplement ce qu'on sait faire. Eh ben, c'est pas de notre faute si cette singularité est aussi riche. Et puis je vais dire aussi bonne, parce que le but de la cuisine, de cette fameuse transformation instantanée, c'est de se régaler et de passer un bon moment. Donc là, il n'y a pas...
Malgré tout...
On ne doit pas parler d'arrogance, quoi. C'est évident, voilà.
Ça se discute. Ça se discute sur le terme de l'arrogance. Mais j'invite les auditeurs et les auditrices à lire Passer à table, le livre d'Émilie Leisteri, pour se faire aussi leur propre idée. Malgré tout, sur ce que vous dites de ce repas avec ce mariage des mets et des vins, cette succession de plats, cette façon de mettre la table et d'en parler, qui fait tout l'art du repas gastronomique des Français, j'insiste sur la question, est-ce que ce repas-là, cette façon même de manger, n'est pas en train de disparaître? Et est-ce que l'UNESCO, qui a pour but de protéger les savoir-faire traditionnels et les pratiques culinaires, défend ce qu'il a mis, ce qu'il a inscrit il y a 15 ans,
bon,
Guy Savoy.
Alors, non, mais bon, il suffit de se... Encore une fois, moi, je vais rester concret. Il suffit de se balader sur les marchés partout en France pour voir... Moi, j'ai grandi dans les années 60. Dans les années 60, on disait qu'en l'an 2000, on ne mangerait que des pilules. Quand je fais le tour des marchés aujourd'hui, dans les années 60, on avait une seule variété de pommes qui était la Golden, insipide, pas parce que la Golden est insipide, parce qu'elle est en surproduction. Aujourd'hui, vous trouvez, sans n'importe quel marché, une quinzaine ou une vingtaine de variétés de pommes, la même chose en poire, toutes les variétés de tomates. Enfin, je trouve que tout va mieux, pardonnez-moi, j'ai envie de dire que tout va mieux.
Oui, mais là, vous parlez en général, vous ne parlez pas du repas. Le repas qui a été encore. Mais le repas, c'est vers le repas
que ça converge. Non, mais la table, c'est le lieu de convergence.
On ne mange plus de la
tout ce que
même
vient
façon.
De dire Guy Savoy, quand même.
On mange debout. On va
non,
acheter...
mais non. Non.
Maurice Sacco.
On est un dimanche à l'heure du déjeuner.
Je suis sûr que
des millions de foyers sont autour de la table, se régalent, discutent et tout. C'est ça, la France.
Je ne sais pas si c'est ça la France,
c'est ça
qui a été inscrit, mais si c'est que un repas le dimanche midi, ça fait pas beaucoup sur toute la semaine. Maurice Sacco.
Alors si je dois aider, je dirais que non, la part se réduit naturellement, mais ça vient justement justifier la nécessité de l'avoir fait il y a 15 ans. Ça permet d'inscrire...
Formidable conclusion. Si on devait réécrire le dossier de l'UNESCO, et très voilà. Maurice Sacco sur dedans, on ajouterait peut-être d'ailleurs au repas gastronomique des Français, des Françaises, on actualiserait peut-être le dossier et surtout on transmettrait une seule chose de ce repas gastronomique, un geste, une valeur, un goût, un plaisir partagé, bien entendu, autour de cette table. Il est 12h23, presque 24, c'est l'heure de vous retrouver pour votre dialogue des cuisines, mon cher Maurice Sacco. Avec un plat bien de chez nous, sauf qu'ils ne sont jamais bien de chez nous, la bouillabaisse.
Toujours, il y a toujours un petit piège. Non, aujourd'hui, du coup, au bout du thème, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai recherché parmi les plats français inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Et il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, la bouillabaisse. Tout d'abord, j'adore ce plat. Il fait partie de ces rares plats qui ont une résonance particulière chez tout le monde, car on retrouve des soupes de poisson partout à travers le monde. Mais la bouillabaisse, c'est littéralement un rituel. Cette recette nous vient de la Grèce antique et existe depuis aussi longtemps que la ville de Marseille, elle-même fondée par les Grecs vers 600 avant Jésus-Christ sous le nom de Massilia. Ils apportèrent plusieurs recettes avec eux, dont la cacavia, ancêtre de la bouillabaisse, à l'origine un ragoût de poisson préparé avec les restes et un vin de la pêche du jour. Celle-ci a aujourd'hui évolué jusqu'à donner la bouillabaisse que nous connaissons tous. Son nom proviendrait de la langue provençale, où « bouillabaisseau » veut dire « quand ça boue, tu baisses ». Cela nous donne déjà une piste sur la cuisson de la bouillabaisse. D'abord plat de pauvres, où les pêcheurs faisaient cuire les poissons et tout ce qui leur passait sous la main dans de l'eau de mer frémissante, pour ensuite déguster séparément le poisson cuit avec une mayonnaise à l'ail parfumée au safran, la rouille, et le bouillon qui était versé sur des croûtons frottés à l'ail. La bouillabaisse gagna ensuite ses lettres de noblesse avec le chef Jean-Baptiste Reboul et son magnifique ouvrage « La cuisinière provençale ». Car si l'on ne modifie pas tant que ça la recette, il va lister plus d'une quarantaine de poissons de roche, éléments indispensables de la bouillabaisse ou de Méditerranée qui peuvent ou doivent figurer dans la recette. Pour en citer quelques-uns, on retrouve la rascasse, vraiment indispensable, la vive, le rouget, le grondin, la saupe, le Saint-Pierre, le congre, la liste pourrait durer toute la chronique mais je vais m'arrêter là. En 1980, une charte de la bouillabaisse fait même son apparition, sous l'impulsion de restaurateurs marseillais, fatigués de voir d'autres restaurateurs peu scrupuleux utiliser le nom de la bouillabaisse pour n'importe quelle soupe de poisson. Ce que je trouve génial, c'est que cette recette nous permet d'illustrer que lorsque l'on parle de terroir, ce n'est pas forcément à l'échelle d'un pays, mais plutôt d'une zone géographique. Car la bouillabaisse appartient tout autant à un héritage du pourtour méditerranéen que français. Il suffit de faire un tour de la Méditerranée pour voir apparaître plein de cousins de la bouillabaisse. Je vais finir par vous proposer une variante de la bouillabaisse, testée et approuvée par mes soins.
Et ça, c'est important.
On va faire de la bouillabaisse.
On n'est jamais si bien servi par soi-même.
Ah bah bien sûr. On va transformer la bouillabaisse en sandwich. Je vois déjà les Marseillais bondir de leur fauteuil, mais j'ai le droit, je suis parisien. Donc pour notre recette, réalisez votre bouillabaisse dans les règles de l'art. Puis à la place des croutons, taillez deux tranches de pain, puis les toaster et les frotter à l'ail. Disposez votre rouille sur vos tranches, puis récupérez la chair de vos poissons précédemment cuits. Attention aux arêtes. Les mettre sur le pain et refermez comme un sandwich. Épaississez votre bouillon et trempez votre sandwich dans le bouillon, comme un dip, au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est assez génial. Faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait aucun Marseillais dans la pièce.
C'était le dialogue des cuisines de Maurice Jacquot. Merci. Merci Maurice. Pour finir, et puisque j'ai à côté de moi un certain nombre de livres disposés sur la table, je voudrais finir par l'annonce des lauréats du prix du livre gourmand de Périgueux, dont la 20e édition se tient depuis ce vendredi 14 novembre 2025 sous la présidence du chef Pierre Gagnère. C'est l'événement phare des amoureux de la bonne chère et des livres, avec des rencontres, des signatures, des tables rondes et donc des prix littéraires. Un prix pour un livre jeunesse, remis cette année à Justine Gauthier et Sarah Loulendo pour Sacré Banquet aux éditions Thierry Magnier. Le prix de la Masigne, qui récompense une monographie ou un ouvrage collectif paru dans l'année sur la cuisine, les pratiques culinaires, l'alimentation, les produits alimentaires ou le fait de manger en général. Le jury a choisi cette année, parmi les 8 livres sélectionnés, celui de Farah Kerram sur les cuisines d'Afrique du Nord, paru chez Flammarion, et on en est très heureux. Et puis désormais, il y a un troisième prix, créé pour la 20e édition, le prix de l'engagement, qui vient récompenser un ouvrage littéraire, scientifique ou un essai ayant pour thème principal l'alimentation, la gastronomie et les enjeux liés à ces domaines, sous un angle engagé et innovant. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire partie du jury composé de 7 personnes. Nous avons choisi Le sens du bétail, du Lys Thévenon, paru chez Flammarion, qui est un peu à l'élevage industriel, ce que le livre de Victor Castanet était aux EHPAD, les Fossoyeurs, souvenez-vous-en. Un livre qui se lit comme un thriller et qui est sur un sujet extrêmement important aujourd'hui, qui permet de dessiller les yeux sur les enjeux de cet élevage industriel. Voilà pour l'annonce de ces prix du livre gourmand de Périgueux qui se tient jusqu'à ce soir. Un grand merci à vous. On aurait pu continuer évidemment une heure et demie de plus. Guy Savoie, Guy Savoie cuisine les écrivains du 19e siècle, mais aussi du 18e, du 17e. C'était aux éditions Herscher. Pascal Horry, l'identité passe à table pour en savoir bien plus sur tout ce que nous avons dit. C'est aux éditions PUF avec la Fondation Nestlé France. Et Passer à table, ce que l'acte de manger dit de nous, d'Émilie Leistari, aux éditions Divergence. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Alexandre Dang à la prise de son. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.